parce que Radio Capitaine et le Congo, que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits tracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur internet, radiocapi.net.
Certains patients sont souvent mis sous perfusion lorsque on les admet dans un centre de santé, mais bien souvent cette perfusion ne se fait pas dans les respects des normes et on ne prend pas certaines précautions et cela peut aggraver l'état de la personne malade. Alors quelles sont les normes à respecter avant de procéder à une perfusion? Quelles sont les précautions à prendre? Docteur Mouema, François Xavier et chef des divisions chargés de la prise en charge médicale au programme national de lutte contre le paludisme. Docteur Mouema, la première question est de savoir, c'est quoi la perfusion?
Oui, la perfusion, c'est un procédé permettant à injecter des solutés dans la circulation sanguine. Mmh. C'est ça, une perfusion.
Alors, à quel moment la perfusion est-elle nécessaire?
La perfusion est nécessaire lorsque il est impossible d'administrer des médicaments par les tubes digestifs, donc par la voie orale, et que la vie du patient est en danger, et qu'il faut vite donner des médicaments et les injecter directement dans la circulation sanguine. Donc, à résumer, c'est un procédé qui se fait en urgence.
Voilà, c'est un procédé qui s'est fait en urgence. Mais souvent, on a appris des cas où la personne était, on a été admise à l'hôpital et puis on l'a mis sous perfusion et quelques temps après, cela a précipité la mort de la personne.
Oui, ça arrive très souvent. Comme je l'ai dit, c'est un procédé qui s'est fait en urgence.
En urgence, oui.
Et que lorsque le patient arrive, il faut tout d'abord faire l'état, le bilan clinique du patient avant de le mettre sous perfusion. Mmh. Je vais vous donner par exemple un exemple. Par exemple, en cas de paludisme grave, comme vous savez, la plupart de nos malades, ils ont un schéma thérapeutique avant d'arriver à l'hôpital. Ils ont déjà pris des médicaments et perfusé dans des centres de santé. Mmh. Ils ont déjà reçu par exemple la quinine en perfusion. À ce moment-là, le médecin il doit être prudent de savoir si le patient
a la quinine par voie orale, c'est ça, c'est ce que vous voulez dire,
que ça soit par voie orale ou par la perfusion. Alors à ce moment-là, le médecin il doit être prudent pour adapter la dose qu'il faut donner au patient, donc la dose d'attaque. Et là, ce n'est pas la même dose, parce que la dose d'attaque, lorsque le patient n'a pas encore reçu la quinine, vous donnez 20 mg par kilo de poids dans une perfusion. Mais lorsque vous êtes certain que le malade a déjà pris de la quinine avant d'arriver chez vous, là, vous n'allez pas donner cette dose-là. Il faut passer à la dose d'entretien de 2 mg, 10 mg par kilo de poids.
Donc, il faut poser des questions au malade lorsqu'il arrive,
oui,
ou aux membres de la famille.
Oui, bien sûr, c'est ça.
Pour savoir si est-ce qu'elle a déjà pris d'autres produits ou pas.
C'est ça, c'est tout ça.
Voilà. Donc, il faut connaître le bilan clinique du malade avant de le soumettre. Mais s'il est, il vient dans un état, c'est tellement urgent, il ne sait pas parler et qu'il faut faire très vite.
Bon, avec l'expérience, nous savons que nos patients n'arrivent pas directement dans nos hôpitaux. Ils passent toujours par des petits centres de santé. Alors, il faut tout d'abord, en faisant le bilan clinique, il y a certains examens paracliniques qu'il faut faire. Par exemple, l'ionogramme. Et que vous constatez que votre patient a une, par exemple, une insuffisance rénale, directement, il faut adapter déjà la dose. Directement.
Voilà. Et quelles sont les raisons qui expliquent que parfois on déplore des cas de décès lors d'une perfusion?
C'est ça qui dit qu'il faut respecter certaines normes, c'est ça qui est très important. Comme je l'ai dit, nos patients, quand ils arrivent dans nos hôpitaux, ils ont déjà pris beaucoup de médicaments. Et surtout chez nous ici, comme vous savez que la malaria, c'est ça la première cause de morbidité et de mortalité dans notre pays, et les enfants qui arrivent et tout ça, dans cet état-là, il faut toujours bien poser la question, savoir qu'est-ce qu'il a déjà pris avant d'arriver chez vous. Parce que maintenant, il faut adapter la dose. Et un malade qui arrive en coma, bien sûr, il faut faire, comme je l'ai dit, il faut faire le bilan clinique et que vous constatez que le malade n'urine pas. Il a une sorte d'oligurie, de n'urine pas. La quantité d'urine diminue. À ce moment-là, il faut adapter la dose parce que les médicaments que nous donnons, hein, en regardant un peu le phénomène, la pharmacocinétique des médicaments, il y a tout d'abord la résorption, la distribution de ce médicament, la transformation chimique de ce médicament dans l'organisme et l'élimination. Vous savez, le médicament que vous avez donné, il doit être éliminé, par exemple, il est éliminé principalement par le rein, et que ces reins ne fonctionnent pas correctement. Là, il faut maintenant réduire la dose.
Pour le malade qui souffre des problèmes rénaux.
Des problèmes rénaux,
oui.
Oui. Si c'est un malade qui a des problèmes au niveau du foie et que vous savez que ce médicament, il est principalement éliminé par le foie, il faut diminuer la dose. Vous voyez, c'est ça que très souvent dans des petits centres, les infirmiers...
Mais pour les diabétiques, hein, par exemple, il y a aussi des précautions qu'il faut prendre, hein, par rapport à leur situation.
Normalement, un diabétique, avant de le prendre en charge, il faut doser sa glycémie. Et ce qui tue le diabétique, ce n'est pas cette perfusion. C'est parce qu'on n'a pas pris en charge correctement sa glycémie. C'est ça qui tue. Ouais. Parce que si vous lui donnez une petite perfusion de glucosé à 5%, ce n'est pas ça qui va vraiment augmenter sa glycémie jusqu'à qu'il soit dans un état critique. Mais c'est question de bien contrôler sa glycémie et c'est tout. C'est ce qui n'est pas fait très souvent dans les petits centres.
C'est dans les petits centres généralement qu'il y a beaucoup de problèmes.
Hein. Oui, il y a beaucoup de problèmes. Bon, c'est tout à fait normal. Nous savons que nos patients, avant d'arriver à les hôpitaux, ils passent toujours par les petits centres. Notre taux d'utilisation de nos services curatifs est avoisine aux environs de 40%.
Mais est-ce qu'on peut dire que les médecins, les infirmiers qui passent dans ces petits centres-là sont moins formés que ceux qui sont dans les grands centres? Parce qu'ils devaient être à mesure de donner les soins... Les soins de qualité.
Bien sûr. Mais ils n'ont pas assez d'équipement. C'est ça aussi. Parce qu'il faut nécessairement, il y a d'autres pour des raisons, ils cherchent un peu de l'argent, ils vont très vite parce que la perfusion, ça paye.
Ça paye et on crée rapidement un petit centre.
Un petit centre, oui.
Oui.
Oui, c'est ça.
Voilà. Donc, il y a des normes à respecter avant de procéder à une perfusion. Alors, pour les cas de la malaria, par exemple, comment ça se passe?
Oui, normalement, pour le cas de la malaria, nous avons une classification. Quand il s'agit du paludisme simple, donc du paludisme qui n'est pas compliqué, à ce moment-là, nous donnons des médicaments par la voie orale. Et nous avons deux médicaments que nous utilisons fréquemment, reconnus par notre politique de lutte contre le paludisme. C'est la molécule artésunate plus amodiaquine, ou soit artémétère plus lumefantrine, qui ça se donne perros, donc par la voie orale, en cas de paludisme.
Alors, à quel moment vous recourez à la perfusion?
Oui, on recourt à la perfusion lorsqu'il s'agit du paludisme grave. Donc, il y a le grand problème ici, qu'est-ce que c'est le paludisme simple et qu'est-ce que c'est le paludisme grave? C'est là où beaucoup de prestataires de soins, ils confondent un peu les choses. Et pour satisfaire un peu nos patients, pour un cas de paludisme simple par exemple, ils commencent à donner des perfusions. Non, la perfusion ne se donne qu'en cas de paludisme grave. Et il y a des critères cliniques et biologiques qui définissent un paludisme grave. Un, tout d'abord, il faut arriver à poser bien le diagnostic, donc à faire des examens paracliniques où vous avez mis en évidence le parasite de la malaria, et cliniquement, un paludisme grave où vous avez des signes cliniques, vous avez la fièvre, accompagné d'un ou de deux signes de gravité, par exemple le coma. Un malade qui est anémique, un malade qui a la détresse respiratoire, il est inconscient. Par exemple, un enfant qui est tenté de vomir, des vomissements à répétition. Voilà. Là, vous pouvez dire, voilà que je me trouve devant un cas de paludisme grave.
Et immédiatement, à ce moment-là, on doit perfuser.
Oui, parce que là, le malade est dans l'incapacité de prendre le médicament par la voie orale.
Orale, oui.
À ce moment-là, maintenant, vous passez à la perfusion.
Bien, nous avons un premier auditeur en ligne, Patti Lengue, qui nous appelle de Kikuit, dans la province du Bandundu. Vous voulez également participer? Appelez au 081-890-63-94.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peinture ou photo, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Quelles sont les normes à respecter avant de procéder à une perfusion? Patti Lengue, vous êtes à Kikuit, dans la province du Bandundu. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour, je dis, je suis un peu, c'est pas Patti Lengue, c'est bientôt Patti Yende. Patti Yende.
Patti Yende, bien, c'est noté, on vous écoute.
Oui, j'ai une petite préoccupation à poser à ma condition. Prenons par exemple le cas d'un patient avec état de diabète titré, qui présente aussi le paludisme, qui a déjà consommé des ATC, hein, des ACT à domicile. Maintenant, il vous arrive, quelle sera la meilleure prise en charge et le liquide du choix à prescrire à ces patients? Et la quantité de latinine activée dans ces liquides?
Oui, vous dites, le patient a pris quel produit avant de venir dans votre centre?
En fait, les ACT, hein, les ACT.
C'est quoi les ACT?
Ce sont les antipaludéens en gros. Hein.
D'accord. Merci, docteur Mouma.
Oui, il a parlé des ACT, des CTA, ce sont les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine. Et chez nous, dans notre pays, nous avons retenu deux molécules. C'est ça que je disais bien avant, artésinate plus amodiaquine, ou soit artémétère plus lumefantrine. Un patient diabétique qui a déjà pris ses médicaments à domicile, le principe tout d'abord, il faut, en cas de paludisme simple, on a déjà diagnostiqué, parce que maintenant nous parlons du paludisme, il ne faut pas seulement un diagnostic clinique, il faut une confirmation biologique. Cela veut dire soit vous faites le test de diagnostic rapide, ou soit vous faites la goutte épaisse pour confirmer qu'il s'agit du paludisme. Mmh. Et lorsqu'il s'agit du paludisme simple, vous prenez soit l'amodiaquine plus artésionate plus amodiaquine, soit artémétère plus lumefantrine. D'une manière correcte en respectant les doses. C'est là où se trouve le problème.
Le dosage.
Oui, il faut bien respecter le dosage. Pour un adulte, si vous avez utilisé l'artésinate plus amodiaquine, vous avez des comprimés d'artésinate dosé à 100 mg et l'amodiaquine à 135 mg. Donc, il faut prendre deux le matin, chaque fois, par jour, pendant 3 jours. À ce moment-là, je peux dire que vous avez été traité correctement. Mais si vous prenez un comprimé le matin, un comprimé au deuxième jour, là, ce n'est pas une prise correcte de médicaments. À ce moment-là.
Mais dans les cas d'une perfusion.
Oui, j'en arrive.
Oui.
Donc, lorsqu'il s'agit du paludisme simple, lorsque les médicaments n'ont pas été pris correctement, vous reprenez la même posologie. Ok? Mm-hmm. Mais quand il s'agit maintenant du paludisme grave, là il y a vous avez encore des signes de gravité. Par exemple, le malade, il est en coma. Ou bien il est tenté de vomir. Un malade qui est anémique. Vous voyez? Là, vous êtes devant un cas de paludisme grave. Vous donnez la quinine en perfusion. Et pour un diabétique, bien sûr, il faut bien contrôler sa glycémie. Et le soluté que vous allez lui donner, c'est toujours le sérum glucosé à 5%. Ce n'est pas ce sérum de glucosé à 5% qui peut augmenter subitement sa glycémie. Non. Alors, si le malade succombe, c'est que vous n'avez pas bien contrôlé sa glycémie.
Oui.
Oui.
Donc, et là, avant de le mettre sous perfusion, il faut absolument contrôler sa glycémie.
Sa glycémie. Vous savez qu'il est à quel taux. Si sa glycémie est bien stabilisée, il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, quand un malade est sous perfusion, il faut bien contrôler sa respiration, le pouls. Et toutes les 30 minutes...
Il faut toujours passer, voir comment il réagit.
Et comment est-ce qu'il réagit.
Oui.
C'est ça. Le problème dans nos hôpitaux, c'est un problème très souvent de nursing. Vous placez une perfusion et vous laissez au garde malade de surveiller.
Et l'infirmière va se promener ou va causer avec ses amis. Oui.
Oui. La norme, c'est que quand vous placez une perfusion, l'infirmier doit rester à côté du malade. Et c'est ça notre faiblesse.
Ou... Généralement, ce n'est pas le cas.
Non.
Mais qu'est-ce que les infirmiers vont faire? Qu'est-ce qu'ils font entre-temps alors?
Oui, moi je peux vous dire que c'est une défaillance un peu de notre part. Nous tous, nous savons que il y a 30, 40 ans dans nos hôpitaux, ces histoires de gardiens malades n'existaient pas. Mmh. Si vous voyagez dans d'autres pays du monde, vous n'allez pas voir qu'il y a des gardiens malades. Pourquoi c'est vraiment chez nous? C'est une défaillance de notre part.
Mmh. Donc normalement, les membres de la famille ne devaient pas être dans l'hôpital?
Non, pas du tout.
Oui.
C'est ça. Pas du tout. L'infirmier doit rester à côté du malade et surveiller toutes les 30 minutes lorsqu'on place une perfusion. Parce qu'il faut bien voir le débit, la vitesse, comment est-ce que la perfusion tentait de couler. Il faut bien vérifier. Le malade peut...
Parfois, ça va très vite. Lentement.
Lentement. Mm. Ou bien le patient bouge, il y a un caillot de sang qui se forme. Oui. Vite, il faut retirer la perfusion.
Et si l'infirmier n'est pas là?
Si l'infirmier n'est pas là, ce caillot de sang, il est mis dans la circulation sanguine. Ça provoque une thrombose. Le malade succombe.
Voilà. Nous avons deux autres auditeurs, Moindo Maeshe de Dungu, en province orientale, et Mathieu Mwanza, de Kalemi, dans la province du Katanga. Moindo, vous êtes à Dungu, qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, bonjour à Dio Kapi, bonjour aussi à l'invité.
Qu'est-ce que vous avez à nous dire, Moindo?
Mais je voulais seulement demander un peu à notre invité s'il n'y a pas une solution trouvée par rapport... aux enfants de moins de 5 ans qui sont perfusés et voir même comment la perfusion les dérange vraiment et c'est souffrant vraiment. Je ne sais pas s'il n'y a pas un traitement vraiment par rapport à cela.
Les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de quelle maladie? Toujours du palu?
Oui, toujours du palu. Quand on les perfuse comme ça, tu vois que les bras gonflés ou... On rase un peu la tête, on cherche des veines par où on peut mettre la perfusion et tu vois vraiment que l'enfant pleure, il souffre. Je ne sais pas si le palu chez les enfants de moins de 5 ans, si on peut traiter ça autrement par la perfusion.
Merci. Mathieu Mwanza, vous êtes à Kalemi. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, monsieur l'invité. En fait, j'ai suivi l'intervention du docteur. Et je suis tout à fait d'accord avec lui, mais moi je voulais lui compléter par certaines petites observations.
Oui.
Le docteur a bien parlé qu'il y a un problème de dose, ça et là, il est monté des défavis, il est chevronnier en la matière. Moi je ne suis pas chevronnier, mais à moi j'estime que les grands défauts relèvent du côté du personnel soignant, des centres hospitaliers. Ils sont censés et ils ont été formés pour ça. Une fois qu'on amène quelqu'un, je ne pense pas qu'on peut traiter quelqu'un sans tenir compte des paramètres importants. Par exemple, les taux de sucre, par exemple, les tests de poison, tout centre hospitalier, quand même qu'on peut te donner l'état clinique du patient. Mais déjà, le personnel soignant doit savoir qu'avant de les traiter, il faudra d'abord que je fasse ceci, je fasse cela. Pour qu'une fois qu'il sera sous perfusion, qu'il puisse s'y succomber. C'est qui se font pas généralement dans beaucoup de centres hospitaliers. C'est un cas particulier que j'ai dû remarquer, au moins à Bukavu, ça se fait comme ça.
Oui.
Mais généralement, partout, On intervient seulement sans pour autant tenir compte du taux du sucre de quelqu'un, sans pour autant tenir cette personne peut-être, la personne peut être empoisonnée. Une fois que vous le mettez sous perfusion, directement vous l'acheminez à la mort.
D'accord, merci.
Voilà, au moins,
merci
voilà.
Mathieu, merci. John Kalunga, vous êtes à Lubumbashi. Quelle est votre question?
Ma question, c'est en rapport avec, j'ai suivi bien le docteur. Mais moi, on a vu un cas dans la famille, l'enfant présente chaque fois l'anémie. Mais quand on arrive à l'hôpital, le papa n'était pas là, était en voyage, on a examiné tout le monde, on n'était pas du même groupe avec l'enfant, mais il y a un infirmier qu'on connaît très bien, il est donneur, on a pris directement le sang, on a perfusé l'enfant. Et la fois passée ici à Lubumbashi, je suis allé quelque part dans une polyclinique. Je suis arrivé, on me dit, non, vous êtes de quel groupe? Moi, je dis, moi, je ne sais pas, mon sanguin. On me dit, non, il y a un cas grave, venez, on peut d'abord vous tester, et s'il y a moyen qu'on puisse d'abord prendre votre sang pour donner l'enfant. Et puis, ça va respecter toutes les procédures selon ce que le docteur a dit, ou bien on donne seulement le sang et les autres vont suivre après, ou c'est comment? Et c'est normal.
D'accord. Merci. Jean des Dieux, Kafuka, vous êtes à Kikwit, dans le Bandundu. Bonjour. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Bonjour, monsieur le journaliste, et bonjour aussi à notre invité.
Bonjour.
Oui, merci beaucoup pour l'émission. Je pense que c'est plus le paludisme qui est fréquent dans nos hôpitaux et surtout dans notre pays qui est dans la région tropicale. Maintenant, pour ceux qui concernent les traitements qu'on invité vient de le dire ici, s'il s'agit même de paludisme simple, on pourra même commencer à procéder par la perfusion.
Non.
Maintenant,
il semble que l'invité n'a pas dit ça.
Une année, 8 mois, et qu'on l'a soigné avec d'autres anti-paludéens, et aura le choc injectable à l'expression de la quinine et qu'il y a toujours la résistance. Maintenant, il y a aussi une diminution du sang et on peut procéder aussi par la perfusion ou pas. La deuxième préoccupation qui peut nous donner quand même l'éducation sanitaire pour ce qui concerne les traitements préventifs de la malaria, parce que c'est souvent des enfants.
Oui, Jean des Dieux, ça, c'est pas le terme du jour. Et l'invité a dit tout à l'heure, pour les cas de paludisme simple, on ne perfuse pas. C'est plutôt pour les cas de paludisme grave. Merci. Revenons à d'autres questions. Moindo de Dungu nous dit. On parle de là-bas, là où il vit, il y a des enfants de moins de 5 ans qui sont perfusés. Il dit que c'est vraiment de la souffrance. Ces enfants souffrent parce que parfois on les coupe les cheveux parce qu'il faut trouver de veines. Et puis la main gonfle à cause de toutes ces perfusions. Est-ce qu'il n'y a pas un autre moyen de traiter les enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malaria?
C'est ça que j'ai dit. Ça se traite d'abord en urgence. Cela veut dire que lorsque vous êtes dans un service d'urgence, vous avez un plateau technique et des gens bien entraînés pour trouver facilement la veine. Et lorsque vous êtes dans un centre de santé. Je vous rappelle tout d'abord la norme. Le cas de paludisme grave ne se traite pas dans un centre de santé. Le cas de paludisme grave se traite dans un centre de santé de référence ou dans un hôpital. Ce n'est que les cas de paludisme simple se traitent dans les centres de santé. Voilà. Donc, on se met d'accord sur ça. Mmh. Donc, on suppose que lorsque vous êtes dans un hôpital ou bien dans un centre de santé de référence, vous avez un plateau technique assez élevé et des gens bien aguerris pour trouver un abord veineux.
Voilà, Mathieu Mondial d'Académie s'en prend au personnel soignant. Il dit que s'il y a des cas, des décès, tout ça, à cause d'une perfusion, c'est la faute revient souvent au personnel, aux soignants, parce que certains ils vont directement sans avoir à faire le bilan clinique, comme vous l'avez dit.
Oui, bien sûr, c'est ce qu'il dit. Voilà qu'il faudrait que les infirmiers soient à côté du patient pour vérifier le débit de la perfusion. Et si le malade, il est agité. S'il y a déjà un gonflement, par exemple, lorsqu'il y a un caillot de sang qui se produit, là, il faut arrêter la perfusion. Et pour les enfants de moins de 5 ans, nous savons que la tranche de la population la plus vulnérable pour faire le paludisme, ce sont les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes. qui sont le plus touchés. Dans notre pays, nous avons deux molécules pour prendre en charge les cas de paludisme grave. Nous avons la quinine qui se donne en perfusion continue d'une manière lente, ou soit l'artésunate injectable, une nouvelle molécule maintenant que nous utilisons dans la prise en charge du paludisme grave, qui se donne en IV direct. Ce sont les deux molécules. Voilà. Donc, pour les enfants de moins de 5 ans qui font le paludisme grave, un enfant qui est dans le coma, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous ne pouvez pas lui donner des médicaments par la voie orale. C'est pour cela qu'on utilise
La perfusion.
Parce qu'il faut vite agir, parce que la vie du patient est en danger.
Voilà. Et John Kalunga de Lumbashi nous parle d'un enfant anémique. On a amené plusieurs fois à l'hôpital. Et puis l'infirmier est allé rapidement chercher du sang et donner à l'enfant. Et il dit, est-ce que c'est dans ces conditions que cela doit se faire?
Non, ça ce n'est pas une pratique correcte. Le sang ne se donne pas de cette façon. Il faut bien faire le test de compatibilité. Pas directement prendre un sang qu'on n'a pas bien testé. Non, vous risquez de donner un sang qui est incompatible. Et là, le malade succombe en quelques heures.
Alors pour ceux-là qui vont dans les centres, là, parfois il n'y a pas de médecin. Ils trouvent qu'il y a des infirmiers qui sont là. Et c'est l'infirmier qui prend en charge le malade. Alors qu'est-ce qu'ils doivent faire? Vous avez parlé du bilan clinique. Quels sont les éléments, les informations qu'ils doivent obtenir avant de procéder, de passer à la perfusion?
C'est ça que je viens de dire. Un infirmier, il n'est pas autorisé de prendre en charge un cas de paludisme grave. Non, c'est le médecin.
Imaginez. Mais dans le pays est vaste.
Voilà.
Il y a des endroits dans notre pays où les hôpitaux, les centres de référence se trouvent à distance. On ne sait pas y aller tout de suite.
De par sa formation, un infirmier ne peut pas prendre en charge correctement un cas de paludisme grave. Vous vous trouvez dans un centre de santé. Je vous donne un exemple. Un enfant qui est anémique. L'urgence, il faut transfuser cet enfant. C'est ne pas donner la perfusion à cet enfant. Non. L'enfant qui est anémique, il faut le transfuser. C'est ça l'urgence. En cas de paludisme grave, par exemple, un enfant qui est anémique, et vous êtes dans un centre de santé, vous ne savez pas faire une transfusion, qu'est-ce que vous faites? Ce n'est pas correct. Non. Vous devez transférer.
Il ne faut pas prendre les risques.
Non, il ne faut pas prendre les risques. Il faut référer cet enfant dans un centre de santé, là où il y a un plateau technique, on peut le prendre correctement en charge. Parce que dans un centre de santé, on ne peut pas faire une transfusion. Imaginez-vous un cas de paludisme grave avec une insuffisance rénale. Qu'est-ce qu'un infirmier peut faire dans un centre de santé en cas d'une insuffisance rénale? Non. Il faut les transférer dans un hôpital où on peut le prendre correctement.
Mais le centre de santé a besoin d'argent. Il a besoin d'argent et ça doit fonctionner. À ce moment-là, tout s'explique.
Voilà, c'est ça qui se passe. Je vais vous dire que dans le monde, notre pays, la RDC et le Nigeria, nous avons 40% de la charge des décès dus au paludisme dans le monde. C'est à cause des pratiques pareilles. 40% des décès dus au paludisme, c'est le Nigeria et la RDC. Et nous, nous sommes au deuxième rang. Voilà.
Voilà, nous sommes au deuxième rang, c'est déplorable.
Oui.
Alors, du côté des membres des familles, est-ce qu'il y a aussi des précautions? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Comment doivent-elles veiller lorsque un membre de la famille est malade? On va dans un centre de santé, on veut perfuser, on demande d'aller acheter rapidement ceci. Qu'est-ce qu'il faut, il faut faire, docteur?
Non, c'est ce que je vous ai dit. Ce n'est pas leur boulot. Les membres de la famille, ça c'est les infirmiers qui doivent surveiller correctement le malade qui est sous perfusion. Avant de placer une perfusion, il y a toujours une norme, il faut respecter les normes d'asepsie et d'antisepsie.
C'est-à-dire?
Cela veut dire que là vous allez ponctionner, vous allez placer votre aiguille. Il faudrait que ce soit stérile, désinfecté. La place où vous allez placer votre aiguille.
Mm-hmm.
Et éviter, en donnant la perfusion, que vous injectiez encore d'autres germes dans la circulation. Et ça, c'est très dangereux. Parce que la complication peut arriver d'une manière locale. Tout d'abord, c'est l'inflammation qui peut arriver au niveau de la ponction, là où vous avez placé votre aiguille. Mmh. Vous avez des douleurs, la rougeur, tout ça.
Mmh. Et il y a parfois des gonflements aussi.
Oui, parfois des gonflements aussi. Et ça, il faudrait que l'infirmier soit là pour voir non, que ça ne va pas. Il faut vite arrêter la perfusion.
Mmh. Sinon, et appeler le médecin.
Oui, appeler le médecin. Et ce qui se passe dans notre centre de santé, après avoir placé votre perfusion, vous mettez un pansement. Ce pansement-là que vous mettez sur l'aiguille, il doit être stérile. Vous prenez un sparadrap qui n'est pas stérile, vous placez là-bas, avec tous les risques encore d'injecter des germes dans la circulation sanguine.
Mmh.
Et provoquer une infection, ce qui est très grave, la complication la plus redoutable.
Mmh. Mmh. Et quand le malade décède, qui est responsable à ce moment-là?
Bon, c'est clair.
C'est clair, c'est l'infirmier. Donc, c'est le responsable du
centre. Le personnel soignant que nous avons fait.
Oui, ils doivent. Ils vont répondre devant les cours des tribunaux. Bien, merci, docteur François-Xavier Mouema. Je rappelle que vous êtes chef de division chargé de la prise en charge médicale au programme national de lutte contre le paludisme. Merci et bonne journée.
Merci, Jérôme.